Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h. Il est 19h passé de 4 minutes. Et c'est l'heure du Canu Info.
Et c'est l'heure du Canu Info, au moins pour jusqu'à 19h15 à mon avis.
Si on se débrouille bien.
Si on se débrouille bien.
De quoi on va parler ce soir? Et ben, on va commencer par des brèves. Ensuite, on va parler
Des OPR, parce que quand même, c'est toujours bien les OPR.
Voilà.
C'est toujours bien, pas dans la vraie vie, mais pour les infos, c'est quand même une mine.
Voilà. Et ben, dans les mines, on a quand même rarement des mines qui sont des bonnes nouvelles dans les infos.
Ouais,
et on continuera dans les mines de mauvaises nouvelles avec la rubrique Faut que ça se sache. Où on aura des gardes frontières qui tirent à balles réelles pendant une opération de sauvetage. Quoi d'autre? On aura tout un tas de trucs
glauques dans
ce genre-là.
Et puis, pour terminer dans le glauque, y a une manif samedi, il n'y a qu'à dire dès à présent, samedi à 14h30 à Bellecour, une manif pour Gaza, stop génocide, cessez le feu. Voilà, on reviendra sur les bonnes raisons d'aller à cette manif.
Et alors, on a des petites brèves, c'est toi ou c'est moi qui commence?
Vas-y.
Allez, et ben tout est bon dans la désinformation. Et si on a l'habitude de voir les fermatrolls de Poutine se jeter sur les sujets de société à haut niveau de foutage de bordel, genre guerre à Gaza, antisémitisme, Covid, etc., etc., on les attendait moins sur des phénomènes médiatiques tels que les punaises de lit. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministre français délégué à l'Europe, qui a déclaré que la polémique des punaises de lit a été artificiellement amplifié sur les réseaux sociaux par des comptes d'origine russe qui n'ont pas hésité à faire le lien entre l'arrivée des réfugiés ukrainiens et la vague fictive, pour le coup, hein, de punaises de lit. Bon, si on veut bien croire le ministre sur les comptes Twitter, ça n'explique pas totalement l'emballage médiatique qui a lieu autour de punaises de lit, où chaque journal y allait quand même de sa petite anecdote piochée sur Twitter sans plus de vérification que ça, où on voyait soi-disant des punaises de lit dans les bus un peu de partout.
Et le tribunal administratif de Paris a validé avant-hier l'expulsion de l'imam Marjoubi, décidé en urgence par Gérald Darmanin le 21 février. Pourquoi est-ce que Gérald Darmanin avait tant d'urgence à décider d'expulser cet imam? C'est que celui-ci avait publié des vidéos de plusieurs de ses prêches où il comparait notamment le drapeau tricolore à un drapeau satanique. Alors, c'est vrai que moi, traiter quoi que ce soit de satanique, ça m'évoque pas grand-chose. Mais si je disais par exemple ici à l'antenne que le drapeau tricolore est une grosse merde, est-ce que vous croyez que je serais renvoyé par charter dans mon département?
Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est le moment de parler d'EPR.
Et c'est le moment de parler d'EPR parce que les EPR, eh bien les EPR, au pluriel, c'est quand même une éternelle blague. Alors celui de Flamanville, bien sûr, qui pourra continuer à nous faire pas mal rigoler, ce qui est bien la moindre des contreparties vu le pognon qu'il nous coûte. En tout cas, il pourra nous faire rigoler jusqu'à ce qu'il soit mis en service, s'il est mis en service un jour. Pour rappel, ce chantier qui avait commencé en 2007 devait être terminé en 2012. Et donc, pour l'instant, non. Il devait coûter 3,3 milliards d'euros et pour le moment, il ne marche toujours pas. Mais la facture s'élève déjà à plus de 19 milliards d'euros. Alors, EDF a construit aussi un EPR pour les English à un endroit qui s'appelle Hinkley Point. Et là aussi, ma foi, retard, dépassement de facture, etc., etc. En Chine... Ah, la Chine, c'est pas pareil. En Chine, il y a déjà deux EPR qui fonctionnent. Alors, EDF n'y est que en petite partie pour quelque chose, mais quand même en petite partie. Mais cela fonctionne. Enfin, il fonctionne quand il fonctionne, parce que en 2021, puis en 2023, il a fallu les arrêter pour plusieurs mois à chaque fois, à cause à chaque fois deux histoires différentes, hein, d'avaries différentes, mais des avaries auxquelles les ingénieurs n'ont toujours pas compris grand-chose, ni comment elles ont commencé, ni comment éviter qu'elles ne recommencent. Devant un résultat aussi formidable, notre bien-aimé président de la République a eu l'idée du siècle pour sauver le climat, construire encore et toujours plein de réacteurs nucléaires et en particulier des EPR. sans vraiment soucier par ailleurs de ce qu'on fera des déchets qui seront dangereux, rappelons-le, pendant quelques centaines de milliers d'années. Mais il paraît que les EPR ne niquent pas le climat. Enfin, ça semble en réalité pas si certain, mais autant dire que c'est presque écologique. En tout cas, Macron a vraiment essayé de le faire passer dans la nomenclature de l'Union européenne comme de l'énergie verte. Alors, c'est parti. Le président l'a décidé tout seul et annoncé en 2022. Et on construit en ce moment même 6 EPR le plus vite possible. Parce que c'est vrai, avec le climat, il y a comme une sorte d'urgence. Juste, c'est un peu con, on a appris hier que finalement ils vont coûter, ceux-là aussi, un peu plus cher que prévu. Selon les échos, EDF évalue désormais à 67,4 milliards d'euros le coût de construction prévisionnel des 6 réacteurs EPR. En 2021, l'idée c'était plutôt 51,7 milliards, ce qui veut dire 16 milliards de différence et une hausse de 30%. Au même moment où on se rappelle qu'il faut que les ministères économisent combien 100 milliards d'euros, je crois. Et que pour ça, Bruno Le Maire a dit qu'il faut économiser 100 milliards d'euros. Et pour ça, ma foi, le plan, c'est quand même plutôt de raboter les droits sociaux que d'arrêter de construire des merdes.
Ah mince.
Donc finalement, c'est plus 100 milliards qu'il va falloir économiser, ça va être 116 parce qu'il y a un trou de 16 milliards qui était un peu inattendu. Bon, ce nouveau budget prévisionnel pour les EPR prend notamment en compte les coûts d'investissement pour la réalisation des études d'ingénierie, les contrats de fabrication des équipements et de construction, les provisions pour risques ainsi que les frais de mise en service, vous comprenez pas ce que c'est à dire moi non plus. Mais tout ça pour dire que pour le moment, par contre, les coûts de financement ne sont pas inclus et cela aussi risque d'alourdir la facture. Cette augmentation s'expliquerait par deux raisons principales, selon toujours les échos. Tout d'abord, la progression des coûts d'ingénierie, car EDF a eu besoin de 9 mois supplémentaires pour finaliser les plans génériques de son réacteur. C'est-à-dire que c'est ça en fait, on se rappelle bien que là on commence à construire des trucs qu'on n'a pas fini d'inventer. On va y revenir. Et seconde raison, les hausses des coûts de construction. Ah bah oui, ça, ils n'avaient pas prévu que la guerre en Ukraine, tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Alors c'est ça qui n'est pas pratique avec le technosolutionnisme. C'est que quand on a provoqué des catastrophes en se disant c'est pas grave, on sera sauvé par d'autres trucs qu'on n'a encore pas du tout inventés, et ben c'est quand même pas rare que ça aille un peu de traviole. Alors même si le calendrier de construction de toutes les centrales nucléaires de Macron était tenu, ce qui, à mon humble avis, a peu de chances d'arriver, elle serait mise en route en 2037, c'est-à-dire vraiment tard par rapport à l'urgence climatique et le fait qu'il faut baisser très très vite les émissions de gaz à effet de serre. Et rappelons quand même que pendant ce temps, les panneaux solaires et les éoliennes ont déjà pas mal fait leurs preuves et même ont en réalité se sont énormément améliorés dans les dernières années, malgré le fait que on leur lâche énormément, mais alors énormément moins de budget qu'aux centrales nucléaires.
Mais avec les panneaux solaires et éoliennes, on ne pourra pas continuer à vivre comme ça, dans l'opulence des années et des années.
Alors, soyons clairs avec les EPR non plus. Hein.
Bah non, mais bon, en tout cas, on peut essayer de le faire espérer aux gens. C'était vraiment trop court parce que j'ai pas eu le temps de finir d'écrire mon dernier article. D'habitude, tu fais plus long sur le nucléaire.
Ouais, c'est vrai. Mais autrement, tu veux que je fasse Gaza tout de suite ? Puis tu nous feras...
Ah bah ouais, tiens, fais ça.
Ouais, bon, qu'est-ce que vous faites samedi après-midi ? Je te préviens, ça va pas être si long non plus.
Ouais, mais vas-y.
N'écoutez pas les gens à l'écoute, là, c'est de la cuisine interne. Qu'est-ce que vous faites samedi après-midi ? Eh bien, à 14h30, vous serez, j'espère, sur la place Bellecour pour une manifestation dans le cadre d'une journée nationale d'action qui s'intitule « Gaza, stop génocide, cessez le feu ». Alors... quoi de neuf à raconter aujourd'hui sur cette histoire de Gaza ? Bah, pas grand-chose, en fait, puisque ça fait déjà 5 mois que ça dure de manière un peu pareille. À Gaza, l'armée israélienne massacre encore et encore et organise, qui plus est, une famine. Donc on en est à plus de 30 000 morts, dont 70% de femmes et d'enfants. Alors je dis ça, c'est pas que ça soit plus grave de tuer des femmes et des enfants que des hommes adultes. Mais comme on se doute que le Hamas n'a pas ce côté égalité des sexes, a embauché beaucoup de femmes combattantes, ça vaut toujours le coup de le préciser, au cas où quiconque pourrait croire encore qu'il est question d'une guerre contre le Hamas, et que ça serait ça le véritable but de la guerre. Alors je sais toujours pas moi si le terme génocide est approprié ou pas, mais au point où on en est, ça n'a en réalité pas d'importance. Ce qui a une importance, c'est de toute façon le concept d'enfermer 2 millions de personnes dans une prison, puis d'écraser cette prison sous un tapis de bombes. Et en même temps, de couper l'accès à la nourriture et maintenant aussi l'accès à l'eau, puisque là, on en est au point où les gens commencent à mourir de soif à Gaza. J'ai entendu ce matin à la radio, mais mon info est peu précise, que des bébés meurent de soif dans les hôpitaux. De soif, pas de faim là, on parle bien de mourir de soif, de déshydratation, par manque d'eau et manque d'eau potable. À Gaza, les journalistes ont été visés particulièrement, les humanitaires aussi, et même certains humanitaires ressortissants de pays occidentaux, pays qui ont protesté bien mollement dans ces cas-là. Le système de santé est entièrement bousillé, les hôpitaux ont été abondamment bombardés, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'anesthésiens, ce qui est globalement vraiment trash, mais là, disons encore un peu plus. Les pays...
En fait, avec cette histoire quand même, tout est trash, puis tout devient
plus ouais. Ah non, mais c'est ouais, tout est dégueulasse et tout va devenir pire de plus en plus vite parce que là il y a vraiment c'est, je veux dire, dans des conditions pareilles, il y a aussi les maladies, aussi les, enfin tout ce qui s'ajoute, quoi.
Et que même si un cessez-le-feu qui a l'air d'être peut-être là en négociation, qui pourrait peut-être éventuellement aboutir avant le début du Ramadan. Donc voilà, tout ça, en fait, ça changerait, bon, ça changerait plein de choses, mais tout ce qui est ces histoires de famine et de maladies ne sera pas résolu avec le cessez-le-feu.
Non, effectivement, oui. Enfin, ça dépend comment ce cessez-le-feu est décidé. Mais tant que Netanyahou peut décider des choses, et quand je dis Netanyahou, soyons clairs, c'est tout son cabinet de guerre, y compris les ministres de l'opposition, qui sont censés ne pas être des fascistes, mais dans leur rapport avec les Palestiniens, en fait, ils sont tout aussi dégueulasses que l'extrême droite de Netanyahou. Les pays occidentaux s'alarment d'une catastrophe humanitaire, mais se contentent de déclarations sans prendre aucune sanction contre Israël. Et donc l'appel à la manif de samedi le dit, à cette déclaration, nous exigeons des actes significatifs. Et cet appel poursuit en énumérant des mesures à prendre immédiatement de la part de gouvernements occidentaux et du gouvernement français en particulier, puisque c'est celui qui est chez nous. Nous exigeons de la France et de l'Union européenne de s'associer à la démarche de l'Afrique du Sud et de contraindre Israël à respecter l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Cette ordonnance, c'est la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de prévenir tout acte de génocide il y a déjà quelques mois. Et bon, autant dire que ça n'a pas changé grand-chose à la conduite de la guerre. Nous exigeons du massacre en réalité. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, total et permanent pour la bande de Gaza, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de population. Nous exigeons l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire, le rétablissement des financements de l'UNRWA et la levée du blocus de Gaza. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. C'est aussi dans le cadre d'un cessez-le-feu que les otages civils israéliens et binationaux pourront être libérés. Évidemment que libérer des otages sans cesser le feu, ça semble tellement compliqué que la seule fois où le Hamas a voulu libérer deux otages ou trois, je ne sais plus, ils se sont fait descendre par les militaires israéliens. La France et l'Union européenne doivent arrêter toute coopération militaire et sécuritaire avec Israël et imposer des sanctions politiques, économiques et commerciales contre Israël. Oui, notamment la suspension de l'accord d'association et de coopération UE-Israël. Voilà, donc je répète, samedi 14h30, Bellecour.
Et on relie aussi une autre initiative d'un collectif lyonnais soutenu notamment par la CIMAD et la Ligue des droits de l'homme, ainsi que par le MAN pour le mouvement d'alternatives non violentes, qui lance donc ce collectif lance l'initiative Une heure pour Gaza et invite à se rassembler tous les soirs de la semaine de 18h à 19h, place de la Comédie, dans le premier arrondissement à Lyon, avec comme mot d'ordre cessez-le-feu immédiat et accès à l'aide humanitaire.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a torturé les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info contre la magie.
Et ça s'est passé samedi 2 mars alors que l'ONG allemande Humanity secourait des exilés en détresse en mer. Des gardes-côtes libyens ont débarqué et tiré en direction des personnes. Alors que déjà les opérations de sauvetage sont très délicates pour éviter toute panique à bord des canots surchargés, le fait que des gardes-côtes déboulent, comme ils le font régulièrement à fond près des naufragés, les menacent verbalement, les visent avec leurs armes et... moins souvent, heureusement, mais ça arrive quand même régulièrement, tirent dans leur direction, mènent à ce qu'il s'est passé ce jour-là. Dans les trois embarcations, c'est la panique, des personnes se jettent à l'eau et une personne mourra noyée. Les embarcations avaient été repérées par avion de surveillance, le Seabird 2. Au moment où l'ONG s'approche du premier canot pour secourir les personnes, les gardes-côtes libyens déboulent à toute vitesse. Tire à balles réelles une première fois, là plusieurs personnes sautent à l'eau, puis les gardes-côtes tirent une seconde fois à proximité des personnes à la mer. C'est lors de cette deuxième rafale de tir que la personne s'est noyée. Les équipes de sauvetage ont été contraintes de quitter la zone, menacées par les gardes-côtes, sans pouvoir repêcher le cadavre de la personne. Une partie des personnes a été secourue par l'ONG, quand d'autres ont été contraints de monter sur le bateau des gardes-côtes. Une famille a ainsi été séparée. Les uns partiront vers l'Italie, les autres vers la Libye. Ce n'est pas la première fois que les gardes-côtes trouvent le feu. Il y a un an, ils tiraient en direction de SOS Méditerranée, empêchant l'ONG de sauver une embarcation. Même lorsque le bateau de cette ONG est reparti à plein régime pour faire demi-tour fuyant les tirs, les gardes-côtes ont continué de leur tirer dessus. L'ONG Humanity attaque l'Union Européenne et l'Italie. Je les cite, ces bateaux, les patrouilleurs libyens, ont été livrés en Libye par l'Italie l'été dernier. Combien de temps l'Europe financera-t-elle les violations des droits de l'homme à ses frontières extérieures? Nous sommes indignés par ces pertes de vie humaine insensées et appelons l'Italie et l'Union Européenne à cesser immédiatement leur soutien aux soi-disant gardes-côtes libyens. Avec la collaboration de l'Union Européenne, l'Italie, j'ai arrêté de les citer là, pardon, finance et forme depuis 2017 les gardes-côtes libyens. Ils ont également depuis 2017 la charge de la coordination des sauvetages au large des côtes. Avant eux, c'était Rome, La Valette ou Malte, de manière alternative, qui avait la charge de cette coordination. Malgré de nombreuses violences documentées de la part des gardes-côtes, en mars dernier, le Conseil européen a renouvelé pour 2 ans le soutien financier aux autorités libyennes. Le programme de formation lancé en 2020 par l'Union européenne et qui devra se finir en 2025 a pour budget un montant de 16 millions d'euros. Et hop, on va faire un tour du côté de Frontex. Avec... voilà, ça y est. Alors que le pays entrera dans l'espace Schengen le 31 mars, la Bulgarie... je me suis perdu dans mes notes. Alors la Bulgarie entre dans l'espace Schengen le 31 mars et histoire de ne pas perdre une journée, Frontex, triplera ses agences à la frontière dès le 29 février. Jusqu'à 600 agents seront présents le long de la frontière. Une histoire d'amour qui devrait bien prendre puisque la police bulgare est accusée par le réseau Balkan Investigative Reporting Network de nombreux cas de demandeurs d'asile obligés de retourner en Turquie à la nage. Et même s'ils n'ont pas la compétence pour le faire, on appelle ça donc des pushbacks illégales, ils ont également été déshabillés de force ou sévèrement mordus par les chiens des gardes bulgares. Les agents ont aussi pour habitude de surnommer les exilés talibans. Oui.
Et ça, donc, c'était les Bulgares qui vont être rejoints par Frontex. Frontex, si quelqu'un, si qui que ce soit avait encore un vague doute sur ce que c'est Frontex et comment ça fonctionne et comment on réfléchit à l'intérieur de Frontex, l'ancien boss de Frontex est désormais candidat sur la liste du Rassemblement National.
Tout à fait. Et c'était lui qui avait... tu m'as piqué ma phrase.
Ah.
Ma phrase d'après, mais c'est pas grave. Et, pardon. Et c'est même lui qui était... lui, il avait démissionné, mais c'est-à-dire qu'il avait démissionné juste avant de se faire virer, parce qu'il avait été... il avait été quand même tellement loin dans le soutien des exactions des gardes-côtes grecs que, on appelle ça du soutien, on pourrait appeler même ça plus, hein, de la participation active, et notamment l'agence camouflée des pushbacks quand il était directeur, on ne sait pas s'ils le font encore ou pas, mais du coup il y avait eu une espèce de réunion au sommet pour décider de ce qu'il allait advenir de cette personne, et là il a présenté sa démission pour sortir un peu la tête haute. Autre scandale, en tout cas actuel, de l'agence, parce que là pour l'instant ce n'est pas lui, mais effectivement lui faisait partie du problème, mais ce n'était pas tout à fait le problème en entier. Dans un rapport rendu mercredi, la médiatrice européenne Emily O'Reilly a regretté que Frontex n'ait pas déclenché un appel d'urgence pour venir en aide aux 750 passagers de l'Adriana, ce bateau de pêche qui a fait naufrage le 14 juin 2023 au large des côtes grecques. Ce jour-là, plus de 500 exilés avaient été retrouvés morts faute d'une opération de sauvetage menée dans les temps. Alors si je me souviens bien, quand même, il y avait plusieurs articles qui montraient à l'époque que si Frontex, qui était au courant de ce naufrage, avait suivi la procédure qui est logique dans ce genre de cas, c'est-à-dire de prévenir rapidement, de déclencher un appel d'urgence pour que tous les bateaux qui sont à proximité convergent vers ce point et aillent secourir les gens. Ce que n'importe qui aurait fait s'il n'était pas s'agi d'un bateau d'exilés, il est fort à parier que le nombre de 500 morts aurait été beaucoup moins. Voilà, hop, j'arrive pas à remettre l'autre truc. Ah si, bougez pas, tac.
Il faut que ça se sache.
Voilà, sinon après ça fait des transitions un peu brutales. D'après l'ONU, l'année 2023 a été la plus meurtrière pour les migrants à travers le monde. Plus de 8500 personnes cherchant un avenir moins sombre sont mortes en 2023. Alors, faut quand même savoir que ce chiffre, et même je veux dire, l'agence ne s'en cache pas, est largement sous-estimé, puisqu'il compte que les personnes qui sont vraiment été identifiées comme mortes ou disparues. Le nombre de morts, je les cite, en 2023 représente une augmentation tragique de 20% par rapport à celui de 2022, ce qui souligne un besoin urgent d'éviter... d'éviter de nouvelles pertes de vie humaine. Et donc c'est l'OIM qui se charge de ça. Donc l'OIM, c'est l'Organisation Internationale pour les Migrations, qui est une branche, une partie de l'ONU. C'est donc l'année la plus meurtrière depuis que l'organisation a lancé le Missing Migrants Project en 2014, base de données qui recense les morts et disparus. Le dernier sinistre record datait de 2016 avec 8084 morts et mortes dans cette année. L'OIM souligne que les voies migratoires sûres et légales restent trop peu nombreuses pour permettre à un plus grand nombre de personnes de changer de pays et de vie. Des milliers de personnes tentent leur chance à travers la Méditerranée, à travers des canaux bondés, en entreprenant des périples harassants à travers la jungle inhospitalière du Darién, à la frontière entre la Colombie et le Panama, ou en tentant de passer par le Sahara. La zone la plus meurtrière se passe sous nos yeux. Il s'agit de la Méditerranée, avec au moins 3129 décès et disparitions enregistrés rien que pour l'année dernière. Il n'y en avait pas eu autant depuis 2017. Beaucoup sont morts également en Afrique. 1866 personnes ont été recensées, principalement dans le Sahara, et en Asie, 2138 personnes ont été recensées. Pour la majorité d'entre elles, et eux, c'est des centaines de décès de réfugiés afghans et rohingyas fuyant leur pays d'origine ont été enregistrés l'année dernière, nous indique l'agence de l'ONU. Voilà pour ces nouvelles réjouissantes. Quand même pour info, parce que j'ai quand même pompé largement des phrases du site. Toutes ces infos, je les ai trouvées sur le site habituel Info Migrant, voilà, qui est un peu une mine d'informations pour cette rubrique. On a presque fini à 19h30.
J'en suis à
1 minute d'agenda.
Non, rien du tout, à part rappeler samedi 14h30, Bellecour, Gaza.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Ce fut bref, mais déprimant. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous écoutez notre super générique de fin.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.